Bien, Jean-Bernard Leroy à l'appareil. Nous allons donc continuer, encore une fois, ce ne sera pas de l'histoire, mais plutôt de l'examen, enfin j'ose pas dire de la théologie, mais de l'examen de la doctrine chrétienne. Je vais vous parler de l'incarnation. Dès sa naissance, l'Église fut confrontée à de multiples hérésies. Satan était bien décidé à ne lui laisser aucun repos, et l'orgueil des hommes est un moteur puissant. Les épîtres des apôtres en témoignent, qu'elles soient signées de saint Paul, de saint Pierre, de saint Jean ou de saint Jude. Cette dernière épître, peu connue et très courte, est particulièrement violente contre quelques individus des impies qui ont changé en licence la grâce de Dieu et qui ont renié notre seul maître et seigneur Jésus-Christ. La première de ces hérésies, très importante au premier siècle, concerne le mystère de l'incarnation. Comment accorder la toute-puissance infinie d'un Dieu créateur et la misère de la chair vouée à la mort et à la pourriture? Première remarque préliminaire. Rappelons que Dieu est infini et nous très limités dans toutes nos dimensions. Un Dieu qui entrerait dans nos petites cervelles serait certainement un faux Dieu. Mais qui dit mystère ne dit pas absurdité. Ce qui nous dépasse ne détruit pas notre intelligence. Une deuxième remarque. Toutes les hérésies ont pour auteur des cerveaux proclamant « je vais vous expliquer » avant de donner une explication à l'autre en sens contraire de l'Écriture. Là aussi, il est bon de rappeler que, pour nous catholiques, c'est l'Église, en particulier le pape, qui décide ce qui fait partie du dogme et ce qui est... ce qui fait partie du dogme, que ce soit pris dans l'Écriture ou dans la tradition. La résurrection des morts est un dogme, mais non les 969 ans de vie de Mathusalem. Cela dit, il faut rester simple. Le Christ n'a-t-il pas dit « Si vous ne demeurez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Ou bien « Père, je vous bénis de ce que, tout en cachant les choses aux sages et aux intelligents, vous les avez découvertes aux enfants. » Comme ne cesse de le rappeler le pape, il faut savoir marier foi et philosophie. Il est légitime d'approfondir la foi par la raison, mais sans chercher midi à 14 heures. Chercher à mieux comprendre, mais non pas chercher à comprendre autrement. Saint Thomas d'Aquin reste le modèle du genre. La première de ces hérésies, donc, concerne l'alliance de la nature divine et de la matière. Dès le début du christianisme, certains se sont révoltés à l'idée que l'enfant Jésus ait pu salir ses couches, tandis qu'un cantique de Noël espagnol chante la Sainte Vierge lavant ses couches avant de les donner comme reliques aux pèlerins. Ce qui va suivre doit l'essentiel au Père Marie-Dominique Philippe, dont j'ai suivi l'enseignement pendant près de 30 ans. La matière n'est pas mauvaise en soi. Dieu a créé par amour. Dieu est amour, comme on le répète après les papes, sans pouvoir réaliser la profondeur de ces mots. Dieu donc a créé par amour des êtres susceptibles de l'aimer, c'est-à-dire de le choisir librement et non par simple obligation, non par simple obligation physique, et par conséquent la liberté ahurissante, extravagante de le refuser, la liberté que nous avons de nous préférer à Dieu. Cela est déjà un mystère profond. Nous ne sommes pas des marionnettes. Notre acte d'adhésion, d'amour, a une valeur réelle, analogue aux 5 pains et aux 3 poissons que le jeune garçon donna lors de la multiplication des pains. Dieu a donc créé les anges, créatures spirituelles semblables à lui avec la perfection de l'esprit qui choisit sans retour. Mais les anges sont stériles par nature. Ils ne peuvent transmettre la vie qu'ils ont reçue. Dieu est le seul esprit fécond. Dieu lia alors l'esprit et la matière, la matière qui est divisible à l'infini. Ce fut la création décrite dans la Genèse. Le sommet de la création fut l'homme, créature matérielle, dans laquelle Dieu insuffla une âme à son image et à sa ressemblance. De par son côté matériel, l'homme est fécond, comme les animaux. Mais en vertu d'une alliance fondamentale qui ne fut point brisée par le péché originel, Dieu, peut-on dire, s'est engagé à insuffler une âme spirituelle à tout corps engendré par des hommes. Cette fécondité provoqua la jalousie exacerbée de Satan, esprit de lumière, prince de ce monde, qui voyait des créatures asservies à la matière, aux intestins pleins de pourriture, comme le dit le livre des Proverbes, des créatures donc douées d'une fécondité à dimension spirituelle qui lui était refusée. D'où la haine de Satan vis-à-vis de l'humanité, en particulier de la femme, agent de cette fécondité. Cette haine est manifeste dans les attaques répétées contre la femme, contraception, avortement, et contre l'union conjugale qui en est la source, homosexualité. Certains pensent, mais ce n'est pas de foi, que Dieu a eu dès l'origine le projet de s'incarner dans le sein d'une femme, occasion supplémentaire de la haine de Satan contre Notre-Dame, haine si bien décrite dans l'Apocalypse, avec le dragon rouge feu prêt à dévorer l'enfant. D'autres pensent que lors de la création, Satan, prince de ce monde, ange de lumière révolté, a en quelque sorte endommagé le monde en y introduisant la pourriture et la mort. Ces deux données ou fléaux, si on préfère, existaient bien avant l'apparition de l'homme. C'est à la suite de la mort et de la pourriture que nous avons du charbon et du pétrole. L'origine de la mort est une nécessité dans le monde biologique, un scandale pour le philosophe, et un sujet très délicat sur lequel je n'ai reçu aucune réponse définitive. En tout état de cause, elle est la rançon du péché de Satan à l'origine. Dieu plaça Adam et Ève dans un jardin, espace clos séparé du reste du monde. Par leur faute, ils en furent exclus et retombèrent, pourrait-on dire, dans le pot commun. Mais Dieu leur promit un sauveur qui placera leur descendance et eux-mêmes plus haut qu'ils n'avaient été créés. Satan n'a rien gagné. Moyennant quoi, il ressort que la matière n'est pas mauvaise en soi. À la fin du premier chapitre de la Genèse, on lit « Et Dieu trouva que c'était très bon ». Mais Satan se sert de la matière pour nous asservir. D'où l'apparente confusion concernant le monde, qui désigne tantôt l'ensemble de l'humanité, Dieu est venu pour sauver le monde, tantôt les forces du mal, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous, ou bien j'ai vaincu le monde. Dès lors, comment parler d'un Dieu incarné? Dans les premières hérésies gnostiques, le Christ n'est pas pleinement Dieu, ce n'en est qu'une émanation, un des nombreux esprits émanant du Dieu infini, parfois nommé des éons, qui avait occupé un éon comme le Christ, donc le Christ serait donc un éon qui aurait occupé un corps humain le temps de transmettre son message avant de retourner à sa source, abandonnant un corps qui allait être crucifié. Cette hérésie persista longtemps sous plusieurs formes et, si j'ai bonne mémoire, figure actuellement dans le Coran. Mais pour nous, chrétiens, Jésus est vraiment Dieu. Qui me voit le Père, dit-il, ou bien le Père et moi, nous sommes un. On ne saurait être plus net. Saint Paul réfute longuement cette hérésie dans son épître aux Colossiens, chapitre 1 et verset 14 et suivants, parlant de son Fils bien-aimé, par qui nos péchés sont pardonnés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute créature, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant tous les êtres, et tout subsiste en lui. Il a voulu tout réconcilier par lui et pour lui, sur la terre et dans les cieux, faisant la paix par le sang de sa croix. Mais il est aussi homme. Dieu nous a réconciliés avec lui grâce au corps humain du Christ pour nous introduire en sa présence, saint, irréprochable et inattaquable. Tout ça, c'est Saint Paul qui dit ça. Les apôtres insistent sur l'humanité du Christ dans leur témoignage. Dans sa seconde épître, Saint-Pierre stigmatise durement ceux qui renient le caractère divin du Maître. Hommes tarés et souillés, ils se délectent de leur tromperie. Mais Saint-Pierre insiste aussi sur son côté humain. Nous-mêmes avons entendu cette voix provenant du ciel quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Saint Jean glorifie longuement le Verbe qui était au commencement, mais multiplie les témoignages matériels sur son humanité. Celui que nous avons entendu, que nous avons contemplé de nos yeux, que nos mains ont touché, certaines traductions disent palpé, c'est le Verbe de vie. On pense à la scène, à l'épisode de saint Thomas mettant sa main dans le côté blessé, au partage du poisson grillé au bord du lac du Tibériade, après la résurrection, et surtout au coup de lance. Même après sa mort, le Christ a voulu faire quelque chose pour nous, verser jusqu'à la dernière goutte de son sang. Ce témoignage bouleversant est essentiel. Saint Jean insiste, Le témoin de ce fait l'atteste. Son témoignage est digne de foi. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez. Le coup de lance est essentiel. Le corps du Christ, dont pas un os ne fut brisé, reste humain même après sa mort. C'est lui que nous recevons dans l'Eucharistie. Ce mystère devrait nous donner le vertige. Il a fasciné l'âme des plus élevés de nos mystiques. Le Christ qui a dit « Le Père et moi ne faisons qu'un » a été un homme au sens plein du terme. Il a eu faim et soif, il était fatigué. Dieu est homme. Certes, c'est difficile à croire et on ne peut en saisir toutes les dimensions. Mais c'est une vérité essentielle pour les chrétiens qui ne peuvent que répéter après saint Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ».